l'économie.
Le chef d'agence de l'OCTI Toury, interpellé à l'Assemblée provinciale. Il doit s'expliquer sur la prolifération de la fabrication de boissons fortement alcoolisées à Bounia. La Banque mondiale a tenu une conférence de presse ce vendredi à Kinshasa. Au menu, l'évaluation de toutes ses réalisations dans le secteur de l'agriculture. Au moins 450 millions de dollars américains, soit 15% du coût global de l'apport de la Banque mondiale dans ce secteur. Le dossier BIAC continue à défrayer la chronique. Dans un communiqué publié hier, la Banque centrale du Congo attire l'attention particulière des clients de la BIAC. D'après le gouverneur, la décision de dissolution a été prise par des actionnaires défaillants sans le concours de l'administrateur provisoire. Bonsoir mesdames et messieurs, en Ituri, nous parlons de la prolifération de la fabrication de boissons fortement alcoolisées à Bounia sans un contrôle sérieux de la part de l'OCC avant leur commercialisation. Cela était à l'ordre du jour hier jeudi à l'Assemblée provinciale. Le député Pierre Clavier Bédidjo a adressé à cet effet une question orale au chef d'agence de l'Office congolais de contrôle OCC en Ituri. D'autres parlementaires qui ont pris la parole à ce sujet ont qualifié cette situation de danger permanent pour la santé de la population. Le chef d'agence de l'OCC a sollicité 2 jours pour revenir au Parlement provincial afin de répondre à toutes les questions des députés. Un reportage de Martial Kiza.
La démarche du député provincial Pierre Claver Bédidjo est de comprendre la prestation de l'Office congolais des contrôles sur la fabrication des boissons alcooliques à Ituri. Dans sa question orale, il est revenu sur la circulation de plusieurs produits alcooliques fabriqués sur place à Bounia. Selon lui, ces boissons avec une forte teneur d'alcool échappent au contrôle de l'OCC avant d'être lancées sur le marché. Honorable Bédidjo.
Les liqueurs qui sont fabriqués, mais aussi les vins qui sont fabriqués ici localement à Bounia, l'OCC a l'obligation d'exercer un contrôle de qualité pour que la population puisse consommer des produits qui sont sains. Et donc, nous avons voulu vraiment que l'OCC puisse nous éclaircir par rapport à ça, mais aussi pour les boissons qui viennent à partir du Nord Kivu. Vous avez suivi qu'il y a de cela quelques mois, nous avons quand même connu des cas de décès, notamment du côté de Nyankunde, liés à la consommation de ces liqueurs.
Les chefs d'agence de l'OCC a reconnu que la plupart des sociétés qui fabriquent ces produits à Bounia fonctionnent dans la clandestinité. Freddy Ngomodja précise cependant que les produits des sociétés qui sont répertoriés par son service sont bien analysés par l'OCC avant d'être largués sur le marché des ventes. On écoute un extrait de son intervention.
À ce qui concerne le boisson alcoolisé produite en province de l'Ituri, nous avons constaté que les procédés de la préparation sont exécutés manuellement. Les échantillons de première production de chaque producteur ont été contrôlés par les laboratoires de l'OCC. Les résultats sont satisfaisants. Il sert de faire remarquer que certaines maisons de fabrication de vin opèrent dans la clandestinité.
Les députés Aguenonga Pakuba et tous ses collègues qui sont intervenus sur cette question ont démontré l'efficacité de l'OCC pour bien accomplir sa mission. Selon lui, même les boissons interdites au Nord Kivu sont vendues à Bounia, au Vi et aussi de l'OCC. Le chef d'agence de l'OCC a sollicité un délai de 2 jours pour répondre aux préoccupations des députés. Une demande accordée par le président de l'Assemblée provinciale, Joseph Oudaga Djozo. Selon les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée, en cas de non-satisfaction des réponses qui seront données par les chefs d'agence de l'OCC, ce samedi, l'auteur de la question peut continuer sa démarche avec une interpellation qui peut conduire à une motion de défiance contre l'intéressé. Comme conséquence, l'Assemblée pourrait initier une action politique auprès du gouverneur de province pour demander le départ du chef d'agence de l'OCC. Mais on n'en est pas encore là. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Kapi.
La Banque mondiale a tenu ce vendredi à Kinshasa une conférence de presse. Au menu, l'évaluation de son engagement en RDC dans le secteur de l'agriculture. Un engagement évalué à 450 millions de dollars américains, soit 15% du coût global de l'apport de la Banque mondiale en RDC. Il était aussi question de présenter le projet de développement de pôles de croissance à l'Ouest. Des détails avec François Kadima.
Pour les directeurs des opérations de la Banque mondiale en RDC, l'agriculture est un secteur économique très important dans lequel la Banque mondiale s'est beaucoup investie. Il parle ici de défis à relever et des actions posées par la Banque mondiale. On écoute Amadou Moustapha Ndiaye.
Nous avons en termes de défis la production agricole, si on regarde depuis les années 1990, a diminué de près de 90%. On voit aussi aujourd'hui plus de 6 millions de personnes en RDC qui souffrent gravement d'insécurité alimentaire. Ainsi, le groupe de la Banque mondiale soutient le gouvernement de la RDC dans sa stratégie pour relever tous ces défis.
Prenons la parole, le coordonnateur du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, Alfred Kibangula, a dressé le bilan de ce projet. Il a par ailleurs annoncé le financement additionnel que la Banque mondiale va de nouveau accorder à ce projet pour une durée de 3 ans à partir de 2017.
C'est un projet qui a démarré en 2011, des activités. Et ces activités sont développées dans la partie nord de l'ancienne province de l'Équateur. Donc aujourd'hui, à la suite de la réorganisation administrative, en fait, nous développons les activités dans 3 provinces, à savoir le nord Ubangi, le sud Ubangi et la Mongala. Et une petite intervention ici au niveau de Kinshasa. En fait, ce projet vise à augmenter la productivité agricole. Alors, si on regarde les différents objectifs en fait spécifiques de ce projet, elle vise normalement à toucher 103 000 ménages.
Hormis le PARSA, il y a aussi le projet de développement des pôles de croissance à l'Ouest. Son coordonnateur dresse également le bilan des activités réalisées au cours de cette année 2016. Alain Lungungu explique.
C'est un projet qui comprend 3 composantes. La première composante, c'est la composante agricole. Elle vise le développement des chaînes de valeur agricoles. La deuxième composante, c'est la zone économique spéciale de Maluku. La troisième composante, c'est le développement proactif des affaires. C'est une composante du secteur privé que nous gérons avec l'ANAPI.
Il s'en est suivi un jeu de questions-réponses.
Écho d'économie. La Banque centrale du Congo appelle toutes les personnes disposant des avoirs à la BIAC à la sérénité et au calme, en attendant l'aboutissement imminent du processus de résolution de la crise qui sévit au sein de cette banque. Cet appel de l'autorité monétaire est contenu dans un communiqué publié hier dans la soirée. Daniel Tambizoni.
Le communiqué dit ceci. La décision de dissolution a été prise par des actionnaires défaillants sans le concours de l'administrateur provisoire ni de l'autorité de régulation et de contrôle bancaire qui ont à leur charge la responsabilité de redressement de la BIAC. Le communiqué rappelle aussi que la BIAC se trouve sous la gestion d'un administrateur provisoire désigné conformément aux dispositions des articles 41-48 de la loi du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit pour préparer le processus de résolution de la crise visant à la fois la protection de l'épargne du public ainsi que la préservation de la solidité et de la stabilité du secteur financier congolais. Et de conclure, la Banque centrale du Congo invite les clients disposant des avoirs à la BIAC à la sérénité et au calme en attendant l'aboutissement imminent du processus de résolution de la crise sévissant au sein de cette banque qui devra se solder impérativement par la sauvegarde de l'épargne du public.
À ce sujet, nous avons interrogé un analyste économique pour Michel Somoué. La Banque centrale du Congo ne peut pas enlever aux actionnaires le droit de procéder à une liquidation volontaire, à moins qu'elle ait décelé dans son fonctionnement des irrégularités graves. Et au cas où les deux parties ne s'entendent toujours pas, les actionnaires de la BIAC peuvent saisir la justice internationale, mais à condition qu'ils soient irréprochables moralement. Bonsoir Monsieur Somoué.
Bonsoir Madame Maline.
Décidément, on assiste à un jeu de ping-pong. Votre réaction.
Il faut dire que le dossier BIAC est une véritable nébuleuse. La loi bancaire ne lui interdit pas de se dissoudre volontairement. À moins que la Banque centrale du Congo ait décelé dans le fonctionnement de cette institution des irrégularités graves pour lesquelles la Banque centrale a le droit de la liquider et de la déférer devant la justice. À ce moment-là, nous assistons à ce que nous appelons la liquidation forcée.
Et ce n'est pas le cas?
Ce n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui, que je sache.
Pourriez-vous, M. Somoué, faire la différence entre une liquidation forcée et une liquidation volontaire?
La liquidation forcée, elle procède du constat ou de l'initiative de l'autorité monétaire, qui est la Banque centrale, ou du tribunal, sur base d'un jugement rendu. Parce que l'autorité monétaire, craignant pour l'épargne publique, peut se rendre compte que si une telle banque poursuit son activité, il va y avoir une catastrophe systémique. À ce moment-là, la Banque centrale peut contraindre une banque, parce que c'est elle qui inscrit les banques sur la liste des établissements de crédit. Mais à la condition, je dis bien, qu'elle ait constaté cela de façon manifeste et que cela ne vienne pas comme une suite d'une proclamation de la faillite par l'institution concernait elle-même. La dictation forcée aussi vient lorsque le tribunal est saisi des irrégularités au sein de l'institution et décide également de cette liquidation-là. La liquidation est volontaire lorsque les actionnaires réunis en assemblée générale, comme ça a été le cas de la BIAC, prennent la décision librement de se dissoudre parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont placés dans une incapacité de poursuivre l'activité.
La Banque Centrale dit qu'il y a déjà un repreneur qui est disposé à racheter cette banque. Est-ce que la BIAC ne ferait pas mieux d'accepter cette solution pour aider les épargnants?
Déjà, le fait de l'existence d'un repreneur ne constitue en rien une raison pour liquider une institution bancaire. Parce que ce n'est pas une affaire qui concerne la Banque Centrale. C'est le liquidateur de la banque et les actionnaires de la banque qui décident. C'est les mortes, ça c'est clair. Maintenant, il quitte à un client quelconque qui se lèverait de gauche ou de droite de prendre la décision de vouloir racheter au moment de la liquidation des actifs et du passif. N'importe qui peut se lever pour dire que je suis client acheteur de tel immeuble de la BIAC ou de tel véhicule de la BIAC.
Oui, dans ces cas précis où les deux parties ne s'entendent pas, que dit la loi et qui doit les départager?
Mais je crains fort pour les actionnaires de la BIAC parce que, après tout, il va s'agir ici du pouvoir d'État, du pouvoir régalien, comme on appelle le fait de prince. À partir du moment où, en face des actionnaires de la BIAC, malgré leur décision de dissoudre volontairement la banque, si en face d'eux, ils ont affaire au fait de prince, à un État qui leur impose sa vision des choses, je me dis naturellement que les actionnaires de la BIAC sont perdants. Mais, attention, il existe une justice internationale qui peut être saisie pourvu que les actionnaires en question ne soient pas moralement reprochables eux-mêmes. Et je le mentionne à dessein.
Merci beaucoup, M. Somoui.
C'est moi qui vous remercie, Mme Lannes.
Et voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous.